Pasteur Jay. Parce que le programme est bien chargé, je ne vais pas gâcher ou gaspiller trop de temps. Et nous allons demander au cœur de jeunes hommes de l'Assemblée d'ici, assis avant tout, de venir s'avancer et nous chanter le chant qu'ils ont préparé.
Rise up and make a great.
J'ai toujours été tenté de dire quelque chose, mais cela ne s'est jamais présenté. Mais aujourd'hui, je vais pouvoir le dire. Ma mère avait l'habitude de dire la chose suivante. Elle disait, les hommes sont en fait doués pour le chant. Et elle disait, c'est elle qui disait. Donc, je vous rappelle, c'était ma mère qui disait ça, pas moi. Ma mère disait, les hommes sont plus doués pour chanter que les femmes. Parce qu'elle disait, tu peux avoir une chorale juste des hommes. Ça sera magnifique. Mais elle disait, une femme juste avec des. Une chorale juste avec des femmes, ça sonne pas aussi bien. C'était censé être une boutade. Donc cet après-midi, notre intervenant. Et Monsieur Michael Swain je pense que nous avons déjà entendu et nous allons encore entendre nous allons entendre encore parler de la foi et de la foi en action ou la foi active. Et souvent, lorsqu'on parle de politique ou de réglementations qui vont à l'encontre des valeurs chrétiennes, souvent, on cite alors ce passage quand Pierre et Jean témoignent. Dans le livre des Actes, en disant « Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. » Mais cela n'englobe pas tous les aboutissants de réglementation qui peuvent être mis en place et qui vont à l'encontre des chrétiens et des églises. Cela me rappelle toujours, je me rappelle toujours lorsque Paul était dans l'île des Actes, était menacé d'être fouetté. Et rappelez-vous, Paul a dit, est-il légal, est-il autorisé de fouetter un citoyen romain ? Donc cela nous montre que Paul était, d'une certaine manière, ou jusqu'à un certain point, était au fait de la législation romaine. Et rappelez-vous, quand ils ont voulu le relâcher en secret, il a dit « Non, non, ça n'est pas comme ça, c'est à vous de m'accompagner jusqu'à l'extérieur de la ville pour me libérer. » Parce que nous savons que les autorités étaient en panique quand ils ont appris que Paul était un citoyen romain. Et il y a eu une époque où les législations, les règlements libéraux ont surmonté les chrétiens. Je parle en particulier des valeurs libérales du monde occidental. Et les églises avaient l'air tout à fait sans aide ou complètement décontenancées face à cela. C'est à ce moment-là que Doctors for Life, l'association Docteurs pour la vie, a commencé à s'impliquer dans ce combat contre des législations, contre des réglementations qui vont à l'encontre du christianisme. Et à l'époque, un de nos avocats a contacté une organisation qui s'appelait l'Alliance pour la défense de la liberté. C'est une organisation chrétienne. Donc c'était une association d'avocats chrétiens. Et alors, ils ont démontré comment dans différents environnements, différents pays, les réglementations libérales iniques sont mises en place jusqu'au moment où des avocats chrétiens se lèvent pour s'opposer à ces réglementations. Et par des exemples, en citant un cas après l'autre, alors ils ont présenté comment, lorsque les avocats chrétiens se sont levés et ont commencé à lutter contre ces réglementations iniques, et alors ils ont cité différents cas où un cas après l'autre était en faveur de ces chrétiens. Même les médias séculaires, même par exemple le New York Times, un grand journal séculier aux États-Unis, reconnaît que aujourd'hui ce sont les organisations chrétiennes qui ont la main sur un certain nombre de législations. Donc l'intervenant de cet après-midi, M. Swain, vient d'un arrière-plan juridique. Je vais juste rapidement donner les grandes lignes de son CV. Il a prévu, à la fin de son intervention, quelques minutes pour des questions et des interrogations que vous pourriez avoir et un échange avec lui. Et si vous avez une question durant son intervention, vous pouvez écrire alors votre question sur un papier et faire suivre ce papier. Nous allons voir si nous pouvons prévoir quelqu'un pour ramasser ces papiers et ainsi rassembler les différentes questions et voir le temps qu'on peut consacrer à ces questions en fonction bien sûr du nombre de questions qui seront suscitées. Monsieur Swain est grandi en Angleterre. Il a fait un master en droit dans l'université de Bristol et ensuite a émigré en Afrique du Sud en 1983. Michael est cofondateur, vice-président d'un mouvement d'église. Le mouvement d'église Every Nation. Il a été impliqué dans le ministère chrétien pendant plus de 30 ans, en Afrique du Sud, en Europe et aux États-Unis. Il a aussi eu du succès en tant qu'entrepreneur, des entreprises dans différents secteurs, y compris l'informatique, les télécommunications. Aujourd'hui, il est directeur exécutif de l'association, de l'organisation Liberté de religion pour l'Afrique du Sud. Et sa femme et lui-même vivent à Cape Town. Avant de lui laisser la place, il a demandé de passer un clip pour présenter son organisation. L'organisation a été fondée en 2014 et est impliquée dans la défense des valeurs chrétiennes dans le droit. Aujourd'hui, dans le monde entier, un certain nombre d'organisations et d'individus sont menacés en raison de leur religion ou de leur croyance. Il y a une lame de fond pour aller restreindre la liberté de religion. Et c'est là notre bataille et ce pourquoi nous combattons. Et notre but est de défendre liberté de religion, où nous pouvons vivre notre foi sans être menacés. Donc, nous sommes une organisation non gouvernementale, et donc vous pouvez nous aider en nous soutenant financièrement pour que nous puissions continuer ce combat pour la liberté. Et par ces propos, j'aimerais laisser la place à Monsieur Michael Swain. Salut. Est-ce que ce micro marche? Oui, apparemment. Donc je vous salue. C'est merveilleux d'être là. Un honneur et un privilège. La première fois que je suis venu, Kwasi Zamantou, c'était en 1990. Et j'ai eu alors le privilège de rencontrer le pasteur Stegen. Et quand je regarde et autour, je considère ce qui s'est fait. C'est le fruit, le résultat de la vision d'un homme, mais aussi d'une équipe autour qui l'a soutenu. Et par-dessus tout, la puissance de Dieu qui a fait au-delà même de ce que l'homme a pu penser ou imaginer. Donc j'aimerais utiliser cette occasion pour exprimer mes remerciements pour l'accueil qui m'a été donné ici. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir vous parler cet après-midi. Donc, rapidement, vous avez entendu parler de notre organisation 4SA. Notre organisation a pour but de défendre notre droit et notre liberté de croyance et de culte en Afrique du Sud. Nous examinons tout projet de loi, toute réglementation, toute discussion qu'il peut y avoir au niveau parlementaire. Nous sommes en relation avec les différentes commissions, les différents comités parlementaires. Nous examinons aussi les décisions qui sont prises dans les différents tribunaux et examinons si les décisions, les verdicts, attaquent d'une quelconque manière la liberté de religion et de croyance. C'est là que vous trouverez l'organisation 4SA en premier rang, en première ligne, pour défendre la liberté d'expression et la liberté de religion. Moi-même, je suis pasteur et un chrétien convaincu et consacré. J'ai été impliqué dans le ministère pendant presque 35 ans maintenant. Et je crois que c'est Dieu qui m'a appelé à tenir ce rôle à cette époque que nous vivons. Parce que tant de choses qui nous arrivent durant notre vie sont la conséquence, sont le fruit des lois qui nous gouvernent, des réglementations qui sont mises en place. Donc si nous ne combattons pas ce combat par la loi sur l'aspect juridique, si nous ne défendons pas notre droit à la liberté de religion, cela alors devient difficile de transmettre nos valeurs et nos croyances à nos enfants et aux autres. Le droit à la liberté de religion est garanti par l'article 15 de notre Constitution. Ce droit a été acquis par un grand prix. Dans le contexte européen, il y a eu des guerres de religion pendant plus de 200 ans entre catholiques et protestants, justement sur ce sujet de la liberté de religion. Donc cela nous montre le danger lorsque le pouvoir de l'État utilise la force pour combattre une quelconque idéologie. Et alors, il y a toujours des conséquences désastreuses à cause de cela. En Afrique du Sud, il y a un petit village qui s'appelle Frenchhoek. Ce village, le nom de ce village, veut dire le petit coin français. Est-ce que quelqu'un d'entre nous connaît Frenchhoek? Frenchhoek a été fondé par des gens qui s'appelaient des Huguenots. C'était des protestants qui vivaient en France. Ils étaient environ 2 millions. Mais il y avait une persécution contre eux. Et après la fin ou à la fin de cette persécution, il n'y en restait plus que 10 000 en France. Beaucoup ont fui et certains sont arrivés en Afrique du Sud en pouvant et en étant en Afrique du Sud et en ayant la possibilité de pratiquer leur religion. Donc pour eux, la liberté de religion est venu à un grand prix, à coûter cher. Donc il est critique que nous promouvions et que nous défendions cette liberté de religion. Parce que si nous perdons cette bataille, alors cela sera difficile de la regagner. Certains vont peut-être se poser la question, mais attends, est-ce que je ne peux pas vivre librement ma foi? Je pense beaucoup d'entre nous pensions que cela était le cas jusqu'à ce que nous connaissions le confinement. Les églises ont été fermées. Les leaders dirigeants religieux n'ont pas été considérés comme étant des personnes essentielles. Il y a eu un temps en Afrique du Sud où vous pouviez aller dans les casinos et jouer aux machines à sous. Cela était était acceptable, mais au même temps, au même moment, si tu croisais les bras, les mains pour prier, peut-être parce que tu perdais trop d'argent, alors tu pouvais être arrêté et mis en prison jusqu'à 6 mois. Le jeu de hasard était accepté, mais prier dans une église était interdit. Et alors notre organisation a emmené ou a signé le ministère en justice. Et alors nous avons assigné le ministère de la justice en disant que vous ne pouvez pas discriminer les organisations religieuses. Et alors, la suite de cela, c'est qu'on a permis d'ouvrir les portes des églises, même si c'était en petit nombre, mais ça a quand même permis d'ouvrir les églises. Et nous avons souffert pendant ces moments. Et souvent, nous souffrons parce que nous ne faisons rien. Il y a environ 5-6 ans, il y a eu un rapport qui a été rendu par la commission CRL. La commission CRL, c'est une commission parlementaire qui s'occupe des questions religieuses et traditionnelles. C'est donc une commission qui émane de l'État, qui dépend du gouvernement. Et alors, ils ont établi qu'il y avait beaucoup d'abus dans les organisations religieuses, en particulier chez les chrétiens. Rappelez-vous, le prophète du cataclysme, Prophet of Doom, et il prenait des photos de gens qu'on forçait à manger de l'herbe ou des serpents. Et alors, il montrait cela en disant « Vous voyez ce qui se passe dans le monde religieux, en particulier chez les chrétiens. » Ils ont utilisé ces exemples extrêmes pour cela. Et alors, ils en sont arrivés à la conclusion qu'il fallait réguler, qu'il fallait réglementer les activités religieuses. Et alors, ils ont dit qu'il fallait que ce soit le gouvernement qui nomme les pasteurs, les dirigeants chrétiens, qui nomme les imams, qui nomme les dirigeants des différentes religions. Et donc, si tu veux devenir pasteur, alors c'est à l'État de faire une évaluation de tes capacités, de tes compétences. Et donc, ce serait à l'État de décider si ta doctrine, si ce que tu prêches, si ce que tu dis est acceptable ou pas. Mais voici le problème. Qui décide de cette réglementation? Quand Jésus était sur cette terre et qu'il a marché avec ses 12 disciples, ils ne se sont pas conformés aux réglementations ou ne se sont pas soumis aux joug des autorités religieuses de l'époque. S'ils avaient été évalués sur ce que Jésus enseignait à l'époque, ça aurait été décidé ou cela aurait été trouvé inacceptable, ce que Jésus prêchait. Parce que c'était les pharisiens et les sadduciens qui décidaient de ce qu'il fallait dire. Et donc on aurait fait taire Jésus et ses disciples. Donc, on ne peut pas laisser au gouvernement de décider ce en quoi on doit croire et ce que on doit dire, ou quelles sont nos croyances. Sinon, ce n'est pas la liberté de religion, mais la liberté vis-à-vis de la religion. Oui, bien sûr, nous devons nous enseigner, nous laisser enseigner afin de devenir de meilleurs pasteurs. Mais je pense que chaque pasteur ici peut témoigner qu'ils sont devenus pasteurs parce qu'ils ont eu un appel de Dieu et non pas parce qu'ils ont un diplôme ou une reconnaissance académique. Cela nous a pris 5 ans pour mettre un coup d'arrêt à cette réglementation que le gouvernement préparait. Nous avons participé au Parlement pendant 5 jours d'affilée à 3 reprises. Et nous avons eu le soutien de nombreuses organisations religieuses qui nous ont soutenus dans ce combat à l'encontre du gouvernement pour lui dire: vous ne pouvez pas réglementer ou décider de restreindre la liberté de religion. S'ils avaient pu parvenir à ce qu'ils voulaient, chaque prédicateur aurait dû obtenir une licence, un certificat de la part du gouvernement. Et si tu n'as pas ce papier, cette licence, alors il te faut t'asseoir et te taire. Mais grâce à Dieu, nous avons eu gain de cause. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de cette licence, d'un certificat pour prêcher. Et je prie pour que cela n'arrive jamais. Il y a quelque temps, il y avait une organisation athée qui s'appelle OGOD. Et alors, ils ont assigné au tribunal certaines écoles. Et ils ont exigé que le tribunal décide de bannir, d'abolir 71 pratiques chrétiennes dans les écoles. Ils voulaient que les écoles sud-africaines, les écoles publiques sud-africaines deviennent comme en Amérique où vous n'avez pas le droit de parler de votre foi à l'école. Alors nous avons aussi été au tribunal. Et nous avons démontré que la constitution sud-africaine affirme que notre pays est un pays qui craint Dieu. Et nous avons pu démontrer que la Constitution protège et autorise l'expression de sa foi, même dans les lieux publics. Cette organisation athée voulait des écoles sans religion et sans valeurs chrétiennes. Donc de nouveau, ils ne voulaient pas une liberté de religion, mais une liberté vis-à-vis de la religion. Et de nouveau, je suis reconnaissant de pouvoir dire que nous avons gagné ce cas, et nous avons pu démontrer et ainsi garantir que nous puissions continuer à avoir liberté de religion dans les écoles. Vous pouvez encore, en tant que pasteur, vous adresser au début des classes le matin. Vous pouvez encore prier lorsque vous voulez, avant, par exemple, un match de sport. Mais une chose importante, la nuance, c'est que chaque direction d'école décide ou pas d'accorder ce droit. Donc c'est la direction de l'école qui peut décider. Je pense que les directions d'école, donc le conseil d'administration d'école, est aujourd'hui le chien de garde au niveau de la porte d'entrée. C'est eux qui peuvent décider de ce qui peut rentrer dans l'école ou pas. Donc c'est eux qui décident s'ils veulent empêcher quelque chose de rentrer dans une école. Donc j'aimerais demander, en levant la main, qui d'entre vous fait partie du conseil d'administration d'une école? Donc par là, j'aimerais vous encourager. Si vous n'êtes pas, faites pas partie d'un conseil d'administration d'une école, lorsque l'année prochaine, alors c'est pas le conseil d'administration, c'est les représentants des parents dans l'école. On va dire c'est la direction qui comporte à la fois une direction mais aussi des représentants des parents. Donc je vous encourage aux prochaines élections dans votre école, dans vos écoles, l'école de vos enfants, présentez-vous et faites-vous élire dans ces comités. La Bible nous dit que les fils d'Issacar comprenaient les temps. Et je dois dire que notre époque est une époque dangereuse pour ceux qui croient, qui ont la foi. Et nous devons être veillants. Nous devons veiller. Quand je regarde mon pays d'origine, l'Angleterre, quand j'étais étudiant en droit à l'université, à l'époque, j'avais posé la question à mon professeur de droit. Qu'est-ce qui protège la liberté de religion en Angleterre? Et alors on m'a répondu, mais l'Angleterre est un pays chrétien. Nous avons le droit magistral. Souvenez-vous, certains des plus grands hommes de foi chrétiens sont issus ou sont d'origine anglaise. Wesley, Spurgeon, etc., Wilberforce, David Livingstone, le grand missionnaire, était anglais. Et on m'a répondu à l'époque, l'Angleterre sera toujours chrétienne. Combien cela était faux. Cette photo a été prise dans la même ville que là où j'ai étudié et là, dans cette ville où mon professeur m'a affirmé que l'Angleterre resterait chrétienne et garantirait toujours la liberté de religion. Cet homme qui est arrêté par la police est un pasteur. Il a été arrêté en étant accusé de rompre la tranquillité. Il a été arrêté parce qu'il affirmait dans la rue « Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui, que par Jésus ». Et comme vous pouvez voir à l'arrière, cela a rendu des gens furieux. Ils ont appelé la police et alors la police l'a arrêté. Lorsqu'il est allé au tribunal, l'avocat qui représentait l'État, le procureur, il a dit, si au 21e siècle, vous affirmez, vous citez la Bible, cela constitue un discours de haine. Voilà ce que le procureur dans ce procès a affirmé. Donc ce que nous sommes autorisés de dire est sous la menace, est en danger. Nous avons une loi dans notre pays dont l'acronyme est PEPUDA. Donc c'est une loi qui est aussi connue sous le nom de la loi sur l'égalité. PEPUDA, c'est l'acronyme pour le nom qui dit la promotion de l'égalité et la prévention de discrimination. Donc voilà ce que ça veut dire, PEPUDA, une loi de promotion de l'égalité et de la prévention de la discrimination. Et dans cette loi, il y a un article qui interdit les discours de haine, les discours haineux. Et lorsque nous entendons discours de haine, alors nous pouvons tenter de dire oui, non, mais ça c'est vrai, c'est pas acceptable d'avoir un discours de haine. Mais la question qu'il faut se poser est alors, comment est-ce qu'on définit, quelle est la définition de discours de haine? Notre Constitution nous garantit. Notre Constitution autorise la liberté d'expression à partir du moment où cela ne va pas à l'encontre d'un nombre très restreint de restrictions. Donc, dans la Constitution, l'incitation au mal ou le discours de haine est justement une incitation au mal, ou d'encourager la haine pour que le mal soit fait, pour faire du mal. Voilà ce que la Constitution définit comme un discours de haine. Par exemple, tuer les fermiers, tuer les bourgs. Ça, c'est ce qui constitue un discours de haine. Parce que qu'est-ce qu'on dit ? Tuer les fermiers. C'est que certains politiciens. On définit une action et on définit qui doit être tué. Donc c'est un exemple tout à fait concret et facile à comprendre. Mais qu'en est-il alors si on élargit la définition de ce qu'est la haine? Qu'en est-il si on définit la haine comme étant quelque chose qui est un préjudice pour moi. Qu'en est-il si tu peux prendre une amende ou même être envoyé en prison parce que ce que tu dis porte atteinte à une personne? Alors, on se pose la question, jusqu'à quel point a-t-on liberté d'expression? Jusqu'à quel point peut-on dire ce qu'on leur veut? Et vous savez comment certaines personnes, même parfois, s'arrêtent de parler en disant « Ouh là là, je m'arrête de parler parce que si je dis ça, je vais avoir des problèmes. » C'est arrivé à cet homme, ce jeune homme au milieu, sur la photo. Son nom est Simeon Tchéti. Il habite pas très loin d'ici, puisqu'il est de Chatsworth, c'est-à-dire la banlieue d'Urban. Tchéti est un évangéliste. Et un jour, il a témoigné comment le Seigneur a ressuscité son jeune frère et l'a fait revenir de la mort. Et certaines personnes présentes n'ont pas aimé ce qu'il a raconté, n'ont pas aimé son témoignage, et alors l'ont assigné au tribunal au motif qu'il tenait un discours de haine. Et donc ils l'ont même assigné en tribunal. Et il voulait qu'il paye une amende de 300 000 randes. Et alors notre organisation l'a défendu. Et nous avons pu venir au tribunal, l'assister en tant que partie civile. Et nous avons pu présenter au tribunal une décision qui a été prise par la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud. Donc la Cour constitutionnelle, c'est la Cour suprême, on pourrait dire. C'est le tribunal le plus élevé d'Afrique du Sud. Et nous avons rappelé à la Cour la décision qui avait été prise en rapport avec le cas Tkwalani. Tkwalani était un journaliste qui a écrit un article et il a écrit des choses horribles sur les personnes homosexuelles. Et la Cour a alors décidé qu'effectivement, vu ce qu'il avait écrit, cela constituait un discours de haine. Mais en se basant, en rendant leur verdict, ils ont alors restreint ce que cette loi sur l'égalité définissait comme le discours de haine. Ils ont restreint considérablement la définition même de ce qu'est un discours de haine. Et ils sont allés à l'encontre de la définition de discours de haine qui avait été utilisée pendant 21 ans dans cette loi sur l'égalité. Donc ils ont fait une décision. Et ils ont donné 2 ans au Parlement pour changer la loi, pour restreindre cette définition de ce qui constitue un discours de haine. Et grâce à Dieu, la décision, donc cette décision dans ce cas, a fait jurisprudence au point donc que le discours qui a été tenu par ce jeune homme n'est pas considéré comme discours de haine. Gloire à Dieu. Alors nous pensions en voilà une bonne nouvelle. Mais alors, il y a eu un projet de loi au Parlement qui s'appelle le projet de loi sur la prévention et le combat contre les discours de haine. Et de nouveau, le problème qui se pose avec ce projet de loi, c'est comment est-ce que l'on définit ce qui constitue un discours de haine. Et donc ce projet de loi propose ou veut criminaliser les discours de haine. Et la sentence peut aller alors jusqu'à 8 ans d'emprisonnement. 8 ans d'emprisonnement pour quelque chose que tu dis. Donc, ce qui constitue un crime selon ce projet de loi, c'est l'incitation. Par les paroles, l'incitation à un préjudice. Et la promotion et la propagation d'une haine à l'encontre de groupes particuliers qui sont listés dans la loi. Donc c'est très spécifique. Mais le problème, de nouveau, comment est-ce qu'on définit le terme préjudice ? Qu'est-ce qui constitue un préjudice ? Et dans cette définition, on y inclut le préjudice émotionnel. Alors, on pose la question, qu'est-ce qu'on définit par préjudice émotionnel ? Si je dis quelque chose qui peut te faire un préjudice émotionnel, alors on peut m'envoyer en prison pendant 8 ans. Alors, qui va définir ce qu'est un préjudice émotionnel ? Cela a l'air sérieux. Un autre problème dans cette loi, c'est la liste de ces groupes de personnes listées dans cette loi. Donc bien sûr que cela inclut des critères, des listes de personnes basées sur la race, l'âge, le genre. Mais cela inclut aussi dans cette liste l'identité de genre et le choix de la sexualité. Quand ce projet de loi a été en début discuté au Parlement, il n'y avait aucune protection dans cette liste de groupes vis-à-vis des organisations religieuses. Vous pouviez citer des écritures, parler sur certains groupes de personnes. Vous pouviez parler du mariage, vous pouviez parler même de prostitution. Si quelqu'un était offensé, alors on pouvait être potentiellement emprisonné. Et je suis heureux de pouvoir dire que dans cette loi a été ajouté un article qui inclut les organisations ou des critères religieux. Donc la semaine dernière, nous avons encore rencontré le ministre adjoint à la justice, parce que c'est ce département, ce ministre de la justice, qui est responsable de cette loi, de ce projet de loi. Le problème même avec l'exemption ou la clause qui exempte les organisations religieuses, cette clause protège si tu parles dans le cadre de ton organisation religieuse avec une bonne intention, à moins que ce que tu dises ne soit la définition même de l'article de la loi, l'article de loi. Donc pour nous, cela n'est pas une protection suffisante. Je pense que vous êtes tous d'accord avec cela. Parce que donc, le projet de loi dit, cette clause dit, tu es protégé à condition que tu respectes la loi. Mais comme la loi elle-même n'est pas claire, ben en fait, ça ne protège rien du tout. Donc, ce projet de loi est en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Ensuite, ça doit aller à la Chambre, à l'autre assemblée. La bonne nouvelle dans tout cela, c'est que chaque fois que ce projet de loi est présenté au Parlement, nous, le peuple, avons la possibilité de faire entendre notre voix. Le problème, c'est que très souvent, le peuple ne parle pas, ne s'exprime pas. Tout le monde reste silencieux. Et laissez-moi vous dire, quand nous parlons, quand le peuple parle, quand suffisamment de personnes parlent et s'expriment, alors notre voix devient de plus en plus forte, de plus en plus audible. Et il y a une chose que les politiciens, que les politiques écoutent, c'est qui crie le plus fort. Voilà ce qu'ils écoutent. Parce que, rappelez-vous, c'est une question de nombre. Si tu passes un projet de loi qui mécontente suffisamment de monde, alors tu cours le risque en tant que politicien de ne pas être réélu la prochaine élection. C'est pourquoi il est si important que nous fassions entendre notre voix. Parce que si nous restons assis sans rien dire, alors il ne faut pas s'étonner si nos libertés et nos vies nous sont enlevées. Alors, on m'a demandé, de manière pratique, de donner des conseils ou des conseils sur comment est-ce que nous devons parler dans nos églises. Je pense que vous avez tous remarqué qu'une des questions les plus chaudes du moment, les plus controversées, est en rapport avec la communauté LGBT. Donc, j'aimerais dire quelque chose de manière tout à fait claire. LGBT people are sometimes the most hurting, broken people Des gens issus de la communauté LGBT sont parfois ou même souvent des personnes les plus blessées, les plus abîmées de la vie que vous rencontrerez. Et je pense que nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, les portes de nos églises devraient être ouvertes, grandes ouvertes pour ces personnes. Nous ne pouvons pas dire des choses horribles sur les personnes. Et d'ailleurs sur n'importe qui, n'importe quelle personne. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Mais cependant, il nous faut prêcher la vérité, la vérité, mais avec amour. Tu peux entrer dans une église en tant que pécheur et rencontrer le Seigneur et l'accepter qu'il devienne maître et Seigneur. Mais cela ne veut pas dire que c'est à l'église de s'adapter et d'accepter ce que toi tu veux. Donc il nous faut être prudents avec nos paroles. Il nous faut choisir nos paroles. Ne soyez pas délibérément à dire des paroles, des tirades provocatrices ou controversées. Il nous faut être compréhensif pour atteindre les autres, pour annoncer l'Évangile. Et faites attention aux stéréotypes. Je connais un pasteur qui a eu des problèmes avec le Comité des droits de l'homme sud-africain. Parce qu'il a affirmé en disant « Dieu a fait Adam et Ève, il n'a pas fait Adam et Steve. » Donc, il nous faut être sages avec nos paroles. Et pourtant, cela ne veut pas dire qu'il nous faut arrêter de prêcher l'Évangile et l'Évangile dans son intégralité. Dieu a donné sa parole et elle ne changera pas. Donc, un conseil, restez sur la parole. Si vous êtes une église, vous devriez avoir une confession de foi écrite. Et si vous faites cela, alors vous montrez très clairement en citant des passages de la Bible que vous exprimez par là votre liberté de religion. Comme je l'ai dit, il est bon de dire la vérité, mais seulement si tu dis la vérité avec amour. L'Église devrait être un endroit sûr et accueillant pour tous, et en particulier pour les gens issus de certaines communautés comme les LGBT. Et nous ne pouvons pas utiliser des paroles pour appeler à la violence contre ces personnes. Et souvenez-vous, ce que vous dites va avoir des conséquences sur vous, mais non seulement sur vous, va aussi avoir des conséquences sur votre église, sur votre assemblée. Il y a une bonne idée, il est recommandé d'enregistrer ce que vous dites en public. Parce que si vous dites quelque chose et que vous retrouvez en problème, alors vous pouvez toujours nous contacter et nous viendrons vous assister, vous aider. Alors, voyons maintenant, considérons ceux qui se préparent, ce qui est devant nous. Nous sommes dans une bataille pour la prochaine génération. Le champ de bataille aujourd'hui se trouve dans nos écoles pour nos enfants. Je pense que vous avez entendu parler de CSI, le CSE, qui est en fait le programme d'éducation sexuelle, qui est enseigné dans les écoles, dans le cadre des cours de biologie et de sciences naturelles. Il y a eu donc une tentative de la part du gouvernement d'introduire ce programme d'éducation sexuelle tellement libéral, tellement à l'encontre, opposé aux valeurs traditionnelles de notre société. Et ce mouvement était piloté, poussé par les Nations Unies. Et un des instigateurs et des promoteurs de ce programme d'éducation sexuelle n'était rien d'autre que le planning familial américain, qui est une organisation milliardaire et qui a un réseau d'hôpitaux et de cliniques d'avortement. Et cette organisation génère des milliards de revenus en touchant l'argent du gouvernement pour pratiquer des avortements et même pour marchander les membres des bébés, de bébés à naître. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait faire confiance à de telles personnes pour enseigner à nos enfants ce qu'est la sexualité? Et lorsque ce programme a été introduit, le gouvernement a voulu disséminer ce programme. Le gouvernement, on leur a promis 450 millions de rands pour déployer ce programme. Parce que le diable a beaucoup d'argent pour promouvoir ce qu'il veut faire. Et je suis heureux de pouvoir dire que notre organisation et d'autres organisations, nous nous sommes levés et nous avons dit non. Nous nous sommes opposés à ce programme. Le gouvernement n'a pas le droit d'utiliser ses moyens et son pouvoir pour déployer une idéologie dans les écoles. Surtout qu'il s'agit d'une idéologie qui n'est pas basée sur des faits et sur la biologie. Mais sachez que notre gouvernement, en octobre dernier, est retourné aux Nations Unies et avec les gouvernements de 9 autres pays d'Afrique ils ont ratifié un accord avec les Nations Unies pour leur donner l'autorité pour réviser et déployer ce programme d'éducation sexuelle dans les écoles. Alors, il nous faut être prêts à élever notre voix et à repousser cette attaque. Si vos enfants, si l'on permet à nos enfants d'être enseignés avec des valeurs mondaines et avec des valeurs méchantes en rapport à ce que c'est la sexualité, alors cela va être terrible. Nous allons perdre cette génération. Et cela arrive avec comme une vague. Et un des moyens qui est utilisé, c'est le programme sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. J'ai modifié mon discours ce matin, cet après-midi, parce que j'ai reçu encore un email pas plus tard que hier. Ce que je vais partager avec vous, c'est une nouvelle que j'ai reçue hier. Donc, voici une boîte à outils donc un 10 guides pratiques pour les enseignants à utiliser dans les petites classes pour développer l'éducation sexuelle et la reconnaissance des identités de genre. Donc c'est un guide qui est utilisé, qui doit être utilisé dans les écoles, mais dès la maternelle jusqu'au CP. Ce livre, donc ce guide, a été intégralement payé par une organisation qui s'appelle VVOB, une organisation belge en Europe. Ils ont développé ce guide en collaboration avec l'université de Stellenbosch et avec sous la supervision du ministère de l'Éducation. Donc c'est un guide qui a déjà été imprimé et qui commence à être distribué. Et l'objectif est que ce guide soit distribué et utilisé dans toutes les écoles d'Afrique du Sud d'ici fin 2024. Est-ce que vous saviez que le pilote, donc l'opération pilote, a été déployée ici dans le KwaZulu-Natal avec 4000 enseignants de maternelle. Donc c'est à votre porte. Est-ce que vous étiez au courant de cela? Qui lève la main qui est au courant de cela? Je vois une personne lever la main qui manifeste le fait qu'il est au courant. Et donc, il nous faut être vigilants, il nous faut être éveillés face à cela. Et alors, nous avons demandé au département de l'éducation, au ministère de l'éducation, est-ce que les parents sont au courant? Et on nous a répondu non. Non, nous n'avons pas demandé l'approbation des parents parce que, pour l'instant, nous n'entraînons que les enseignants. La question qu'on pose alors, c'est qui vont-ils enseigner, ces enseignants? Le deuxième point qu'ils ont dit, nous n'avons pas besoin d'un processus public parce que de toute façon, nous n'avons pas besoin. Mais cela va être enseigné à nos enfants entre l'âge de entre 3 et 7 ans. Est-ce que c'est pas quelque chose sur lequel on devrait pouvoir avoir un avis ? Et je vous cite littéralement ce que ce guide enseigne. Donc c'est des citations telles quelles. Donc c'est un guide pour les enseignants de maternelle qui vont donc enseigner nos enfants. Donc l'objectif officiellement, c'est d'enseigner les enfants dans leur plus jeune âge et développement, de promouvoir l'égalité des genres et de prévenir la discrimination. Et c'est malin d'intituler comme ça, parce que moi aussi, je suis d'accord que nous ne discriminions pas contre les femmes qui sont souvent discriminées. Mais le problème, c'est comment est-ce que ce guide définit ce qu'est le genre ? Donc, ils enseignent aux enseignants. Donc ce livre dit littéralement « La plupart d'entre nous avons été élevés avec l'idée qu'il y a seulement deux sexes, mâle et femelle. » Donc, avec l'idée qu'il y a les hommes et les femmes. Et cela est une vérité biblique, et en plus, non seulement chez les hommes, mais dans tous les mammifères. Mais ils apportent dans ce livre une nouvelle définition. Et donc, dans ce guide, il est dit, il continue la phrase en disant « Cependant, les deux sexes et les genres existent au travers d'une nombreuse possibilité. » Et donc ce livre encourage et veut que les enseignants jouent un rôle important pour casser les stéréotypes de genre. Une chose... des choses, des activités qu'ils promeuvent dans ce guide pour professeurs, c'est par exemple d'encourager à ce que les enfants n'utilisent plus les toilettes pour garçons ou pour filles. D'utiliser des photos et des histoires qui permettront de promouvoir la diversité de genre. Et de donner des exemples et des activités avec les enfants qui leur permettront de remettre en question la définition qu'ils ont des rôles de chaque genre et des stéréotypes. Donc, ils définissent dans ce livre en disant « Nous avons grandi avec l'apprentissage qu'on utilise les mots « il » ou « elle ». Donc, le mot « il » ou « elle », en anglais, c'est le même « they », définissait un groupe de plusieurs personnes. Mais alors, de ce guide... encourage les enseignants à changer la définition même de ce que il ou elle veut dire. Parce qu'il faut que les enfants, c'est ce qui est écrit dans ce livre, il faut que les enfants arrivent à la conclusion que l'on ne peut pas définir quelqu'un par un article en fonction de ce à quoi il ressemble. Tout cela va finir avec des matières qui finiront devant les tribunaux. Et tout cela, nous sommes concernés avec notre organisation parce que derrière tout cela, il y a une idéologie. Nous ne disons pas que c'est vrai ou faux. Ce que nous voulons dire au gouvernement, c'est que il n'est pas légal de promouvoir une idéologie auprès des enfants dans les écoles sans le consentement des parents. Sans l'approbation des parents. Combien d'entre nous ne sont pas d'accord avec un tel enseignement ? Donc vous pouvez lever la main. Alors maintenant, utilisez votre main pour écrire au gouvernement, pour écrire à vos autorités. Et nous, en tant qu'organisation, nous allons pousser le gouvernement pour qu'il mette en place un processus public pour demander au peuple et aux parents s'ils sont d'accord avec cela. Nous allons dire au gouvernement qu'il est inconstitutionnel et illégal de pousser une idéologie dans les écoles sans l'approbation des parents. Il est illégal de sauter par-dessus, de faire fi du comité de direction des écoles. Pour ça, vous comprenez pourquoi il est important, comme je vous ai dit, plus au début, combien il est important que vous participiez aux organismes de direction dans les écoles. Parce que ce sont eux qui définissent, selon la loi sud-africaine, ce sont eux qui définissent ce qui peut être enseigné ou pas. Donc ce que je veux vous dire, vous transmettre cet après-midi, c'est que nous avons des lois dans notre pays. Et nous devons être des personnes respectant la loi. Nous devons respecter la règle de la loi. Les chrétiens par le monde doivent être des personnes qui respectent la loi. Mais nous avons aussi des droits. Et lorsque nos droits sont restreints, alors il nous faut nous réveiller. Et alors que nous puissions élever la voix et nous faire entendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Je vais vous demander si vous pouvez vous lever. Il est temps que nous nous levions pour notre génération. Parce que si nous sommes suffisants à nous lever et à dire non, alors il y a un certain nombre de choses que nous pouvons arrêter. Nous pouvons alors nous tenir pour la liberté de religion. Nous pourrons alors continuer à prêcher et à annoncer la vérité et l'Évangile, afin de le transmettre à nos enfants. Mais c'est notre veille. C'est nous qui devons veiller pour le salut de nos enfants, que nous puissions nous tenir debout. Merci beaucoup. Je suis à disposition pour répondre aux éventuelles questions relatives à la liberté de religion. Si... Est-ce que je peux poser la première question ? Avant de poser ma question. Je crois au fait que les réglementations, la loi, devraient non seulement être basées sur l'approbation du public, du peuple, mais aussi sur des faits scientifiques vérifiés. Et il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites déjà, un certain nombre même de pédiatres. Et nous, en tant qu'organisation Dr So Life, nous tenons aux côtés aussi d'autres organisations et même de scientifiques qui ont prouvé les dérives de la dystrophie de genre. La question est relative à ce que je pense être la partie la plus brûlante de l'intervention qui nous a été donnée. Si je prêche et que j'appelle les gens dans ma prédication à la repentance, donc j'appelle les voleurs à se repentir de leur vol, je demande aux adultères de se repentir de leur adultère, de leur immoralité sexuelle et de changer de vie, d'accepter le pardon de Christ. Et si alors je m'attarde ou j'arrive au sujet des LGBT, Et si je cite ce que Romains 1 dit, verset 21. Donc Romains 1, verset 21. Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée est dépourvue d'intelligence et l'est obscurcie. Ils se prétendent sages mais sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer Dieu, le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes, de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritait leur égarement. Alors, sur cette base, j'inviterai les gens issus de la communauté LGBT de se repentir et de se sortir. Et donc, sur la base de ce texte, est-ce que alors cela peut être traité comme un discours de haine? C'est une question excellente. Il y a eu le cas d'une église au Cap dont le pasteur a prêché une prédication similaire. Et il y a un autre passage qui dit, Paul dit, certains d'entre vous l'étaient. Était ainsi avec cette liste de péchés. Et dans la liste de péchés que Paul cite, il cite l'homosexualité. Et alors cette église a été dénoncée auprès du comité des droits de l'homme et du comité des droits, de l'égalité des droits. Et le tribunal, ils ont été assignés au tribunal. La bonne nouvelle est la suivante. Si vous prêchez la parole de Dieu, alors la Constitution sud-africaine vous protège. Parce que c'est un texte écrit. Le problème, c'est quand vous commencez à parler en dehors du script, en dehors de la parole écrite. Si par exemple vous commencez à avoir des propos méchants et horribles envers certaines personnes, si nous prêchons l'évangile, si nous prêchons la repentance, oui, nous appelons les gens à renoncer à leurs péchés. Et nous avons encore la foi, alors la foi, que l'Esprit Saint va les convaincre de péché, que leurs yeux, leur compréhension changent et qu'ils réalisent qu'il y a un meilleur chemin en Jésus-Christ. À ce moment-là, ce genre de discours est protégé. Et comme je l'ai dit au début, nous devons annoncer la vérité avec amour. Et nous laissons alors à Dieu le résultat. Mais il nous faut être sans crainte. Nous parlons des fois qu'il nous faut être revêtu d'un gilet pare-balles. Si vous restez dans les Écritures, si vous restez appuyé en vous appuyant sur votre confession de foi que vous aurez définie dans votre Église, à ce moment-là, vous êtes protégé. Et ce n'est pas parce que vous avez un gilet pare-balles que cela veut dire que vous n'allez pas, on ne va pas vous tirer dessus. Comme j'ai déjà dit, si vous arriverez de vous trouver dans une situation comme cela, alors notre organisation est là pour cela. Nous vous aiderons et nous défendrons. La question est, pour nous ici, qui sommes ici dans cette conférence, est-ce qu'on ne peut pas faire une pétition et l'envoyer à la Cour constitutionnelle. J'aimerais pouvoir dire que c'est une bonne idée, mais malheureusement, ce ne l'est pas. Ça ne marche pas comme ça. Le système n'est pas fait ainsi. Tout est impliqué et tout souvent lié à l'administration et aux réglementations. C'est pourquoi il nous faut pousser le gouvernement à ouvrir la possibilité aux commentaires publics, à ce que le peuple puisse s'exprimer. Parce que, comme je l'ai déjà dit, la loi, la Constitution sud-africaine, oblige le gouvernement à ouvrir certaines choses à l'approbation du public, du peuple, même si cela ne leur plaît pas. Et les pétitions ne sont pas le chemin à suivre. Cela ne sert à rien. Vous pouvez envoyer une pétition avec 1 million de signatures. Cela sera que une demande. Mais si chaque personne qui a signé la pétition et donc soumet un courrier, donc vous avez 1 million de courriers, 1 million de demandes, alors cela constituerait un cri et un tellement fort que le gouvernement aurait de répondre. Pourquoi j'ai dit, il nous faut prendre exemple sur ce que nous avons fait par le passé. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, sur notre site internet. Peut-être nous pouvons repasser le détail de nos coordonnées. Lorsque l'occasion se présente, alors nous vous encouragerons, nous vous expliquerons ce que vous devez faire. Et à ce moment-là, nous vous indiquerons comment vous faire entendre. Et s'il y a suffisamment de personnes qui manifestent leur voix, alors le gouvernement ne pourra pas ignorer. Donc soyez prêts pour le moment où nous vous indiquerons. La question est relative aux toilettes dans les écoles. Si ma fille ne veut pas utiliser les mêmes toilettes que les garçons, peut-elle exiger d'avoir des toilettes dédiées aux filles ? C'est effectivement un grand champ de bataille en ce moment. Parce que cela implique aussi le droit à la vie privée. Et même la sécurité personnelle. Donc il nous faut veiller à ces choses. Nous devons être capables de dire non. Et cela est de nouveau la conséquence d'élever la voix au bon moment. Je pense au mieux, il nous faut trouver un compromis pour ceux ou celles qui ne sont pas sûrs de leur genre ou leur orientation. Peut-être on pourrait avoir un toilette dédié, neutre, et chacun peut alors décider où est-ce qu'il peut aller. Mais cela n'oblige pas les autres à subir la situation. C'est un champ de bataille actuel parce qu'il y a une confusion aujourd'hui. Et cette confusion crée le chaos dans la nouvelle génération, avec des conséquences horribles. Et je ne nie pas qu'il peut y avoir des personnes qui souffrent d'une dysphorie de genre, qui ne savent pas. Alors il nous faut les aider avec compassion et avec la prière. Le problème, c'est que ces sujets sont devenus politisés. Je pense qu'il me faut encore dire quelque chose. Et la vie que je vous donne, ce que je vous ai dit ici, n'est pas un conseil juridique. En tant qu'organisation, nous comprenons ce qu'est la loi, mais nous ne sommes pas nous-mêmes des avocats. Nous ne sommes pas un cabinet d'avocats. Nous avons dans notre organisation des avocats, des juges. Donc nous pouvons donner un avis. Mais vous ne pouvez pas aller au tribunal simplement avec cet avis qu'on vous donnerait. Si vous êtes amené à aller au tribunal, alors il vous faut vous faire accompagner par un avocat, par un cabinet d'avocats. Juste notre avis ne vous aidera pas. C'est mon exception. Si en tant qu'enseignant de maternelle, je refuse de suivre ce cursus, est-ce que je peux être amené à être sanctionné? La réponse est oui. Comme je vous ai dit, la liberté, la Constitution, l'article 15 de la Constitution, donne la liberté d'expression. Non, pardon, donc vous avez le droit de vous opposer à donner cette formation. Donc parce que la Constitution vous donne la liberté d'expression et la liberté de religion. On ne peut pas vous forcer à aller à l'encontre de votre croyance, Et pour ceux qui font partie de syndicats, vous pouvez utiliser aussi l'occasion pour partager ces choses et l'expliquer dans vos syndicats. Vous pouvez aussi soumettre une objection auprès du comité de direction ou comité des parents. Et le droit sud-africain garantit votre liberté d'opinion et votre liberté de choix, d'opinion et de religion. La question est en résumé, qu'en est-il du pense qu'il est important de dire quelque chose d'important sur la liberté de religion. Il est important de comprendre qu'on ne peut pas se cacher derrière la liberté de religion ou la liberté d'expression pour faire quelque chose qui est illégal. Est-ce que tu peux croire en ce que tu veux? Oui. Est-ce que tu peux croire en Satan? Oui, autorisé par la loi. Mais est-ce que tu peux pratiquer des rites sataniques qui sont illégaux au motif que tu as la liberté d'expression? Non. La liberté d'expression et de religion ne garantit pas de pouvoir faire des actes illégaux. Une question, c'était aussi, est-ce que, en tant que pasteur, je peux refuser de marier un couple homosexuel? Ici, en Afrique du Sud, absolument. Vous avez le droit, en tant que pasteur, de refuser une telle union. En Afrique du Sud, nous avons eu un processus au niveau du Parlement sur le mariage. Quelque chose qui s'est passé sur une durée d'environ 3 ans. Le problème en Afrique du Sud, c'est que nous n'avons pas de réglementation unifiée. Donc vous aviez d'un côté la loi sur le mariage qui fait relative aux unions hétérosexuelles. Vous avez un acte, une loi du Parlement qui régule les mariages traditionnels. Et vous avez un cas de jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative à le cas d'un couple homosexuel qui a donc allé jusqu'à la Cour constitutionnelle pour remettre en question le fait qu'ils ne pouvaient pas être mariés comme un couple hétérosexuel. Et alors la Cour constitutionnelle a donné raison au couple homosexuel, et alors le Parlement a passé une autre loi, la loi sur l'union civile. Donc c'est une loi qui donne quasiment les mêmes droits que les couples hétérosexuels. Donc, par contre, pour être marié et reconnu en tant que couple homosexuel, il fallait se marier sous le régime de l'union civile. Et la personne qui faisait le mariage, qui fait le mariage dans ce cadre-là, doit être reconnue comme une licence, comme représentant de l'État. Parce qu'ici, en Afrique du Sud, il faut... C'est pas les maires qui font les mariages, mais c'est les représentants. Par exemple, un pasteur peut avoir une licence pour marier les gens. Et si vous avez, en tant que pasteur, cette licence pour marier les gens, alors c'est très certainement une licence qui a été donnée sous cette loi du mariage. Et dans cette loi sur le mariage, qui régularise ou qui réglemente les mariages hétérosexuels, il y a une clause, un alinéa qui dit que, en tant que pasteur, on ne peut pas être forcé à marier les gens à l'encontre de ta croyance ou de tes convictions. Donc il y avait un problème. C'est donc il y avait différentes lois qui régissaient différents régimes. Et alors, le problème, c'est que le Parlement a souhaité faire cette nouvelle loi qui allait remettre tout à plat. Et alors, ainsi, mettre en place un régime unifié de mariage. Et la grande question était, si toi, pasteur, tu as une licence pour marier les gens. Donc ici en Afrique du Sud, c'est les pasteurs sont les représentants, s'ils sont enregistrés auprès de l'administration, ils sont les représentants de l'État pour marier les gens. Donc il y avait la question de savoir est-ce que si on remet tout à plat et qu'on a un régime unifié de mariage, est-ce que ceux qui ont leur licence pour marier les gens, est-ce qu'ils tombent forcément sous cette nouvelle loi? Et de nouveau, notre organisation a mené le combat. Nous avons été au Parlement, nous avons écrit, nous avons donné des avis et nous avons dit donc, nous avons donc donné l'avis au gouvernement, au Parlement, qu'on ne peut pas forcer un pasteur à marier quelqu'un, quel qu'il soit, parce que cela irait à l'encontre même du principe de base de la Constitution qui garantit la liberté de religion. Et nous avons proposé en disant pourquoi est-ce qu'on ne considère pas le mariage. Puisqu'il faut voir le mariage selon les deux aspects qui en découlent, à savoir d'un côté les aspects légaux, que se passe-t-il avec les propriétés, avec les enfants, etc. Est-ce que c'était un mariage volontaire? Et alors, si nous avons dit, voilà ce sur quoi le gouvernement devrait réglementer. Mais nous avons aussi dit, il y a l'aspect spirituel. Et les différentes religions ont différentes manières d'officialiser et de reconnaître un mariage. Et alors, le résultat final était, c'est que les pasteurs, au final, la décision était que les pasteurs ne pourront jamais être forcés d'officialiser le mariage de personnes si cela va à l'encontre de leur croyance, leur opinion. Mais bon, j'attends encore le résultat final de cette proposition de loi. Et nous attendons de voir si le projet de loi final suivra cet avis. Mais comme je l'ai dit, il nous faut être veillants. Et si nous découvrons que le résultat final est différent de ce qu'il nous a été dit, alors il faudra nous élever notre voix. La question est, est-ce que l'organisation For SA défend toutes les religions ou seulement le christianisme? Je suis moi-même un pasteur. J'ai pris cette décision il y a longtemps. Mais lorsqu'on parle de loi, la loi est neutre. La liberté de religion s'applique à toutes les religions. Donc ce qui est bon pour une religion doit aussi s'appliquer à d'autres religions. Ce qui est mauvais pour une religion doit aussi s'appliquer aux autres religions. Laissez-moi vous citer le cas d'une jeune fille, hindoue, qui a subi donc un rite d'initiation hindou dans le cadre de leur religion. Et lorsqu'elle est retournée à l'école, elle avait une boucle d'oreille dans son nez. Et l'école avait une politique de dire pas de bijoux. Donc ils ont demandé d'enlever la boucle d'oreille de son nez. Mais elle a refusé en disant non, c'est l'expression de ma religion. Et au final, la Cour constitutionnelle lui a donné raison. Et la Cour constitutionnelle s'est basée sur le fait qu'elle avait le droit d'exprimer sa liberté de religion. Et que pour elle, d'avoir une boucle d'oreille dans son nez, c'était sa manière d'exprimer sa foi. Donc pour nous, il n'est pas possible d'aller à l'encontre de cette décision juste parce que cela ne correspond pas à notre foi. Si quelqu'un vous voit porter une croix, alors ils vont dire, faut l'enlever. Il faudra l'enlever. De la même manière, si on n'autorise plus les signes religieux, alors on peut aussi exiger qu'une jeune fille enlève la bague de fidélité ou de chasteté. Parce que donc elle porte cette bague pour exprimer son choix de rester pure jusqu'au mariage. Si tu exiges de la jeune fille hindoue d'enlever sa boucle d'oreille de son nez, alors il te faut aussi demander d'enlever la croix ou d'enlever la bague, parce que la loi s'applique de la même manière à tout le monde. Lorsque nous sommes en discussion et que nous considérons ces différentes questions, le point commun, c'est la loi. Mais sachez une chose, dans 99% des cas, quand il y a des lois, c'est contre les chrétiens, contre le christianisme. Si je défends ma foi, il y a une seule raison, pour que l'évangile puisse être proclamé de manière libre. Parce que Jésus lui-même a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc il est important de proclamer la vérité. Merci. Merci beaucoup à notre frère. Nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons entendu. Il y a encore une demande de notre frère Michael Swain. De vous rappeler que l'organisation 4SA ne fonctionne que par les dons et les participations libérales. Donc là, diapo avec ses coordonnées, bancaires. Et après ce que nous avons entendu, j'aimerais vous encourager, nous tous, à soutenir notre frère et son organisation. Parce qu'ils se tiennent sur la brèche là où nous ne pouvons pas être. Mais que là où nous sommes, nous fassions notre part et que chacun fasse sa part, que nous nous tenions pour la vérité. Quand nous prêchons, quand nous avons des relations ou des entretiens avec les autorités, que nous puissions nous tenir pour la vérité. Donc, pour rappel, les détails, les coordonnées. Et pour finir, je m'ai encore demandé à un frère de venir prier pour conclure. Est-ce que notre frère de Roumanie, le pasteur Hans Koller, peut venir prier? Juste pour rappel, un trousseau de clés qui a été trouvé. Seigneur Jésus, nous te remercions pour les différents membres de ton corps. Chaque membre a un appel particulier, un but spécifique. Mais n'est-ce pas merveilleux de voir, de savoir que chaque membre a besoin de l'autre? Nous te remercions, Seigneur, pour ce que nous avons pu entendre cet après-midi. Prions aussi pour le repas du soir. S'il te plaît, le bénir pour nous. Nous te prions aussi pour la soirée ainsi que pour la journée de demain. Seigneur, te prions, reste avec nous. Amen. Merci. Merci et à ce soir.